Tout d'abord, sur cette opacité, on avait expliqué, du moins la première commission qui était en charge de ça, puisque vous savez que la commission de Bruxelles a changé en cours de négociation. Donc le premier commissaire, Karel de Gucht, avait dit c'était important de ne pas dévoiler les positions européennes, c'était une négociation, c'était des raisons stratégiques. Et ils ont mis en avant cette idée que, comme dans une partie de cartes, entre guillemets, on ne pouvait pas abattre son jeu devant l'adversaire. Donc ça, c'était un peu l'idée de départ. Et la commission avait dit, mais écoutez, on va communiquer sur le sujet. Et la commission de Bruxelles a fait un site où elle présentait des éléments, mais qui, pour les citoyens, restaient très opaques. Cette position, elle n'a pas tenu longtemps, parce que, avec Wikileaks, les fuites, de plus en plus, le mandat de la commission européenne commençait à être connu. Finalement, quand on a changé de commissaire, Madame Malmström est arrivée, elle a dit, bon, j'entends les critiques sur la transparence, devenons plus transparents. Donc on a publié le mandat de négociation, on a essayé de faire un effort sur la com, mais ça reste très opaque, puisqu'aujourd'hui, pour consulter, évidemment, les documents relatifs aux négociations, c'est entouré de précautions extrêmement strictes, que les députés ne peuvent pas, des différents parlements, consulter librement. Donc certes, il y a eu un effort, mais l'affaire reste encore très opaque.
Alors, le TAFTA devrait instaurer un mécanisme pour arbitrer les éventuels conflits entre une entreprise et un État. Est-ce que ce traité, c'est une menace à la souveraineté nationale?
Pour moi, clairement, oui, parce que d'une certaine manière, que ce tribunal prenne une forme de tribunal privé, ou que ça soit d'une certaine manière, comme M. Feket le souhaite en France, le secrétaire d'État au commerce extérieur en charge du dossier, une cour publique avec des juges publics, de toutes les façons, on va créer un organe juridictionnel spécial, spécifique pour ce type de différend, alors qu'il existe des juridictions nationales tout à fait compétentes. Je crois que cela va nourrir encore plus la défiance du citoyen à l'égard de ce traité. Et deuxièmement, les citoyens ne comprennent pas que ce ne soit pas sur des questions aussi importantes, la santé, l'alimentation, leur justice, qui soit évidemment saisie. Donc je pense que tout cela aggrave le sentiment de dépossession des citoyens et une atteinte à la souveraineté nationale. Oui, je n'en doute pas.
Alors, vous parliez de l'alimentation. La question qui se pose aussi, c'est celle des normes agroalimentaires. Qu'est-ce que le TAFTA pourrait changer sur ce qui arrive dans nos assiettes?
Tout d'abord, ça demande une petite précision qui est la suivante. En matière de normes, vous avez, si vous voulez, trois possibilités. La première possibilité, c'est la reconnaissance mutuelle. C'est-à-dire qu'en fait, les Européens vont reconnaître les normes américaines et les Américains vont le faire réciproquement. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, de la viande qui est commercialisée aux États-Unis, si c'est ce mécanisme-là qui l'emporte, eh bien, si elle est légalement commercialisée aux États-Unis, ben, elle pourrait l'être en Europe. Je n'ai pas dit que c'est ça qui l'emporterait, si c'est ça qui se passe. Deuxième chose, on peut faire une harmonisation, alors vers le haut ou vers le bas, c'est-à-dire effectivement des critères plus exigeants ou moindres. Ou troisièmement, vous pouvez laisser certains produits en insistant sur la transparence pour que le citoyen soit le plus au courant de ce qui se passe. En fonction des trois options, eh bien, on pourra tout à fait retrouver des produits américains que les négociateurs vont juger bons ou souhaitables de faire circuler dans nos assiettes. Alors, on nous promet les grands dieux que il n'y aura pas d'OGM, il n'y aura pas de bœuf aux hormones, il n'y aura pas de poulet chloré ou autre. Après, il peut y avoir d'autres types de produits, peut-être moins inquiétants en apparence, mais que peut-être que le citoyen ne voudrait pas avoir dans son assiette, parce que ça, c'est un peu les produits épouvantails, si vous voulez. Mais pour rien avoir, bien d'autres. Surtout qu'en plus, je tiens à dire qu'on peut faire tout à fait un accord à minima aujourd'hui, c'est-à-dire sur les sujets qui fâchent le moins, et comme c'est un accord, on dit, en droit international vivant, eh bien, il y aura un organe de coopération réglementaire entre les deux ensembles qui vont continuer ce rapprochement. Mais le citoyen ne va pas trop bien suivre ce qui va se passer si ce rapprochement continue. Et peut-être ce rapprochement ira vers la baisse, peut-être vers la hausse, on ne sait pas. Donc ces craintes sont quand même assez compréhensibles. Donc, et ça touche bien des domaines, hein. L'alimentaire, l'automobile, la chimie, le cosmétique, la pharmacie, c'est très très vaste, hein. Donc les inquiétudes. On peut les entendre, d'autant plus, sans vouloir être trop long, qu'on ne sait pas si vraiment la Commission européenne a vraiment une position offensive sur le sujet et si elle défend bien ces questions. Preuve en est, vous voyez la France qui tape du poing sur la table en disant si ça continue comme ça, on va sortir de négociations. C'est dire le doute qu'il y a aussi sur les négociateurs européens.
Et justement, sur la France, quelles ont été les lignes rouges posées par le pays?
Alors, ligne rouge. ont été clairement énoncés d'un appel commun qui a été fait par Matthias Fekel et son homologue allemand pour dire que si on n'avance pas, si on ne protège pas tout d'abord la diversité culturelle, tout ce qui est exception culturelle, audiovisuelle et autres, si on ne garantit pas ce que Matthias Fekel appelle la diplomatie des terroirs, c'est-à-dire les appellations d'origine contrôlées et les indications géographiquement protégées, si on n'avance pas sur la question des marchés publics, et si on n'avance pas sur la question d'un tribunal remanié, la France dit, eh bien, nous, on ne veut pas de cette chose. Mais voyez le paradoxe, parce que qui négocie ? Bah, c'est l'Union européenne, à travers la Commission, normalement. Donc, ce n'est pas d'État à État que ça se fait. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est comme la France a comme l'impression, finalement, que l'Union européenne, peut-être, ne fait pas le boulot, alors que ce n'est pas elle qui négocie, elle tape du poing sur la table, en disant, eh bien non, si cet accord ensuite doit passer devant notre Parlement, ce sera niette. Donc c'est vous dire, si vous voulez, la difficulté de la situation, c'est que les Américains se présentent de manière unie, et en face d'eux, ils ont des Européens dispersés. Vous avez une Union européenne qui fait la négociation en apparence, et derrière les États, la France en premier, l'Allemagne aussi, expriment soit des satisfactions, soit des mécontentements. Donc ce qui crée, si vous voulez, un climat de confusion, en fait. Je veux dire, parce que normalement, quand la France dit « on se retire des négociations », mais concrètement, en droit, ça ne veut rien dire, puisque ce n'est pas elle qui négocie. Oui. Donc c'est pour cela qu'on est dans cette espèce de confusion qui fait que cet accord, pour moi, est très bancal. Les négociations sont très bancales, en fait, si vous voulez. Et donc c'est ça qui me, d'une certaine manière, me fait dire que, en fait, derrière ça, au-delà des États-Unis, il y a une critique de l'Union européenne, quand la France se manifeste. Ça veut dire qu'elle estime que l'Union européenne la défend mal.
Et justement, dans l'Union européenne, est-ce qu'on peut dégager une majorité de pays qui seraient pour ou contre ce texte ?
Vous avez la Grande-Bretagne, qui traditionnellement pro-libre-échange, va dans ce sens. Vous avez les pays du nord de l'Europe, qui ne seraient pas hostiles aussi à ce TAFTA. Vous avez l'Allemagne, qui a une drôle de position. C'est-à-dire que vous avez une opinion publique allemande très hostile. Vous avez la composante social-démocrate de la majorité de Mme Merkel qui entend la position allemande et qui devient réservée. Vous avez Mme Merkel qui, elle, plutôt pousse dans le sens de l'avancée des négociations. Et en Italie, pour ce que je peux suivre, il me semble que M. Renzi semblait aller plutôt dans le sens du soutien au TAFTA que le contraire. Donc ce qui fait, et la France, c'est maintenant qu'elle a une position très claire qui la rend presque dans l'opposition de cette affaire, même si elle ne le dit pas. Donc, si vous voulez, on se retrouve, et ça renforce les deux points que j'ai dit avant, comment voulez-vous engager une négociation face aux États-Unis d'Amérique si le front que vous lui proposez en négociation est un front dispersé, désorganisé ? Donc, ce qui fait que l'Europe, dans cette affaire, est sur la défensive, les Américains sont sur l'offensive. Parce que regardez, nous on dit, ah, on veut protéger nos appellations. Nous on dit, on veut protéger nos diversités culturelles. Mais on n'est pas dans la conquête, on est dans la défense. Donc ça reflète vraiment la situation du rapport de force.
Et est-ce qu'on peut dire que ce traité est un traité déséquilibré, qu'il est plus à l'avantage des États-Unis que de l'Union européenne ?
Écoutez, moi je pense que oui, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les États-Unis, c'est une entité stratégique. C'est-à-dire que Barack Obama conduit une vraie diplomatie commerciale. Alors, je ne dis pas qu'elle va réussir, mais en tout cas, il mène une diplomatie commerciale. Il veut endiguer la Chine d'un côté par le traité transatlantique, de l'autre côté par le traité transpacifique. Il veut créer des espaces pour que les multinationales américaines conquièrent des marchés. En face, les Européens, évidemment, sont un petit peu dans une situation difficile. L'Union européenne est en crise. C'est une évidence, crise économique, crise géopolitique, crise institutionnelle. Donc, l'Union européenne, elle, n'arrive pas à avoir une conscience claire de ses intérêts, puisque dégager des intérêts communs à 28, c'est devenu quasiment impossible. Donc, les Européens sont effectivement en position de faiblesse. D'autre part, les firmes multinationales américaines dans bien domaines, pèse plus que celle des Européens. Donc, on est vraiment dans un rapport déséquilibré. Et je crois qu'effectivement, c'est très révélateur de la nature du libre-échange. C'est-à-dire, le libre-échange, on voudrait croire que ce sont deux parties à égalité. Mais ce n'est pas le cas. Et vous savez, hein, dès le XIXe siècle, au moment de la signature d'un traité de libre-échange de 1869 entre la Grande-Bretagne et la France, Thiers avait dit à la fin de ce traité « Le libre-échange, c'est le droit du plus fort ». C'était en 1869. Je crois que cette proposition de Thiers reste encore très vraie. Et le plus fort aujourd'hui, c'est les États-Unis.
Donc finalement, quand on dit que le TAFTA prévoit l'ouverture des marchés publics américains jusqu'à présent, c'était la priorité aux produits américains. Mais comme les multinationales américaines pèsent finalement plus lourd que celles de l'Union européenne, ça ne serait pas si avantageux que ça pour l'Union européenne.
Oui, surtout qu'en plus, on dit qu'ils vont s'ouvrir. Pour l'instant, tout ce qu'a obtenu l'Union européenne, c'est l'ouverture des marchés fédéraux et pas des marchés fédérés. Parce que si les États-Unis cèdent sur les marchés publics uniquement au niveau du marché fédéral, c'est rien, puisque sur les marchés publics américains, on peut dire que le poids, si vous voulez, les différentes administrations américaines, fédérales et fédérées, font des demandes de biens et de services au titre de leur marché public à hauteur de 500 milliards de dollars annuels. 60% de ces 500 milliards sont le fruit des marchés fédérés et pas fédéraux. Donc ça voudrait dire que si les Américains cèdent, eh bien, les Européens n'auront accès qu'à 40%. Et 60% vont rester protégés. Donc, c'est pour cela que Matthias Fekel tape du poing sur la table et il dit qu'il faut que l'ouverture soit au niveau fédéral et au niveau des États fédérés. Parce que le gros morceau, il est dans les États fédérés, il n'est pas au niveau fédéral. Donc, après, il faut que, effectivement, les Américains jouent la compétition et que les multinationales européennes puissent, comment dire, jouer le jeu ou faire face à cette concurrence. Et autre élément, même si ce n'est pas lié directement à la question, mais qu'on ne soulève jamais ou presque jamais dans cette affaire, c'est la question monétaire. Vous allez faire un accord de libre-échange avec un État qui s'appelle les États-Unis, qui a toujours su jouer et utiliser sa monnaie pour sa croissance, c'est-à-dire parfois faire en sorte que le dollar soit plus faible que l'euro. Et nous, de l'autre côté, on n'a aucune politique de change. Donc comment voulez-vous jouer une compétition équitable quand il y en a un qui utilise sa monnaie comme il veut et l'autre n'en fait rien? Donc tant qu'on n'a pas trouvé, à mon avis, un accord monétaire sérieux entre les deux ensembles sur les fluctuations monétaires, cet accord est un jeu de dupes. Et ça, on ne le dit pas. Je veux dire, et qu'est-ce que c'est que jouer avec sa monnaie? Jouer avec sa monnaie, c'est créer des subventions déguisées pour, comment dire, exporter à meilleur prix que son voisin. C'est-à-dire que, concrètement, donnons un exemple, quand le dollar est plus faible que l'euro, eh ben, c'est un avantage de Boeing sur Airbus. Donc, on va signer peut-être un accord alors que la question monétaire n'est pas résolue.
Et pour développer les conséquences possibles sur la Chine, est-ce que cet accord pourrait vraiment limiter la puissance de la Chine?
Je suis sceptique. Admettons que les Européens et les Américains s'entendent. Ils arrivent à trouver des cahiers de charges, effectivement, qui soient suffisamment élevés, qui vont satisfaire tout le monde. Bon, alors on va dire que les produits chinois, quand ils vont vouloir entrer sur le territoire américain et sur le territoire européen, ils vont devoir se soumettre à ces normes, et s'ils ne se soumettent pas, ils ne rentrent pas. Donc, c'est une forme de protectionnisme déguisé à l'égard de la Chine, comme ça on s'assure que ces produits n'arrivent pas. Ok, ça peut avoir un impact, il faudra encore le mesurer. Mais la Chine ne compte pas rester inactive. Elle aussi, elle essaie de développer aussi des alliances commerciales pour contourner cette affaire. Hein. Surtout que, vous savez, il y a une autre question qui est en train d'être débattue, mais qu'on a peine à relier avec celle-ci, et qui est absolument essentielle et qui, à mon avis, ne fait pas l'objet de l'actualité, qui devrait le faire davantage. C'est laquelle? Ça, vraiment, je vous le dis, ça me paraît très important. Est-ce qu'on accorde, oui ou non, en Europe, à la Chine, le statut d'économie de marché? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça ne veut pas dire un cours de théorie économique pour savoir est-ce que c'est une économie de marché ou pas. Donner l'accord d'économie de marché, dire si c'est une économie de marché, ça voudrait dire reconnaître que les prix que la Chine fait sur ses biens ne sont pas des prix qui ont été un petit peu, si je voulais dire, manipulés parce que le coût du travail est trop bas, parce qu'il y a des subventions, parce qu'on joue sur la monnaie, mais qu'effectivement, elle ne fait pas du dumping social. Et donc, si on reconnaît à la Chine ce statut d'économie de marché, Ça voudrait dire que les secteurs qui sont encore protégés des importations chinoises en Europe ne le seraient plus. Donc imaginez-vous, d'un côté, vous faites le TAFTA, vous retrouvez face à une concurrence américaine qui risque d'avoir des effets négatifs sur les économies européennes. À ça, dans le même temps, l'Union européenne, parce que c'est en débat, accorde le statut d'économie de marché à la Chine, on se retrouve avec un autre problème, c'est-à-dire une concurrence aussi non loyale avec la Chine. Donc, on se retrouve vraiment en étau. Alors, je ne suis pas sûr que peut-être ça va protéger un peu les Américains, mais je ne suis pas sûr que finalement les Européens se retrouvent gagnants dans l'affaire. Vraiment. Donc, j'ai l'impression, si vous voulez, que les Européens ne savent pas se défendre, en fait. Ne savent pas proposer une ligne stratégique claire. Ils signent des traités du libre-échange, mais un petit peu sans vision globale. Et c'est ça, si vous voulez, ma source d'inquiétude. Et puis, dernière chose, sans vouloir être trop long. On a signé un traité qui ressemble à TAFTA avec la Corée du Sud en 2011, l'Union européenne. Ce traité fait 1800 pages. Qui l'a vraiment lu? Qui l'a vraiment examiné? Demain, avec les États-Unis, ce n'est pas 1800 pages qui va faire le traité, mais des dizaines de milliers. Qui va nous assurer que, avant qu'on dise oui dans nos parlements nationaux, que ces milliers de pages ont été convenablement lues et analysées? Ça, je ne sais pas. Hein. C'est quand même 1800 pages, vous imaginez, avec la Corée du Sud. Alors imaginez avec les États-Unis d'Amérique. Hein. Donc voilà, donc c'est pour cela que moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est vraiment la faiblesse de l'Union européenne dans cette histoire, c'est-à-dire dans son incapacité à savoir déterminer des intérêts communs et de les défendre.